Ain't no sunshine when she's gone.
Entre nos mains par Valérie Boldier.
It's not warm when she's away.
L'émission qui cherche à bâtir un monde durable.
Ain't no sunshine when she's gone.
Notre invitée de ce soir est une femme engagée. Une trentenaire qui n'a pas hésité à faire de son quotidien son combat. Mannequin et influenceuse éthique, Charlotte Lemay a aussi étudié le chinois, le droit et l'histoire de l'art. Et puis un jour, dans son quotidien effréné à faire le tour du monde, elle fait un burn-out. Le temps qu'elle s'accorde alors lui permet de prendre conscience de l'urgence de la situation de notre planète et elle décide de s'engager. Elle vient ce soir nous confier son parcours et nous parler du guide éthique qu'elle vient de publier. Bonsoir Charlotte Lemay, bienvenue sur Radio Cité Genève.
Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est un plaisir. Alors, est-ce qu'en préambule, vous pouvez raconter à nos auditeurs comment vous êtes devenue mannequin ?
Oui, absolument. Je suis devenue mannequin un peu par hasard. J'étais serveuse dans une soirée. Et c'est une femme qui m'a repérée et qui m'a dit que je pourrais potentiellement avoir les critères. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ce métier. Et donc, j'en ai parlé à mes parents. C'était à 16 ans. Et j'ai attendu de passer mon bac. Et après, j'ai testé ce métier en pensant que c'était un job d'été. Et ça fait 14 ans.
Donc, ce n'était pas un rêve d'enfant. C'était une opportunité qui s'est présentée à vous.
Ah oui, complètement. Hasard total. J'avais aucune conscience de tout ça.
Et qu'est-ce que vous vouliez faire ?
Oh là, mille choses. Je voulais être libraire, présidente de la République, photographe. Il y a énormément de domaines qui m'intéressent. Mais finalement, c'est plus le domaine artistique qui m'a attirée et qui m'a attirée vers mes études. Mais ma passion, en tout cas, c'est toutes les formes d'art.
Bon, est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs qui ne connaissent absolument pas ça, le quotidien d'un mannequin ?
Oui, alors justement, le quotidien d'un mannequin, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. Les journées ne se ressemblent pas du tout, si ce n'est qu'on a en général, beaucoup de castings, surtout il y a 10 ans où il n'y avait pas encore tout qui était numérisé, les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir se présenter. Donc à l'époque, c'était vraiment apporter un book avec 10 photos et aller à 5-6 rendez-vous par jour pour espérer décrocher un contrat, rencontrer les clients, les magazines, les marques, etc. Et si ça fonctionne bien, on a des shootings en France et ailleurs et on rencontre presque tous les jours des nouvelles personnes. Voilà. Et après, il y a différents types de mannequins aussi. Enfin, je ne sais pas à quel point je rentre dans le...
Non, mais c'est en fait la question est plutôt de savoir comment est-ce que les journées se structurent et parce qu'en fait la réalité c'est que c'est beaucoup plus dur que ce que les gens pensent.
Oui.
Alors vous avez parlé de l'insécurité, mm-hmm. parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais les journées sont aussi très très pleines.
Mm-hmm.
Vous courez de casting en casting, comme vous venez de le dire, et j'imagine qu'il faut une hygiène de vie absolument extraordinaire pour arriver à tenir sur le long terme.
Oui, surtout sur le. C'est vrai que ce que j'imaginais pas et ce que mon entourage n'imaginait pas, c'est effectivement les journées sont assez dures physiquement. Bon, c'est-à-dire qu'on va shooter des maillots de bain quand il fait 0 degré dehors et inversement des doudounes quand il fait 35. Et voilà, donc c'est des journées physiques. C'est des journées où on doit être à la disposition des clients et des agences parce que les mannequins n'ont pas vraiment leur mot à dire. Comme c'est un métier que beaucoup de personnes veulent faire et qui est très... c'est un métier assez fantasmé, rêvé. Il y a beaucoup de concurrence et ce n'est pas forcément ce qu'on imagine dans le quotidien. Donc en fait, les agences ne posent pas vraiment de questions, les clients non plus. Les journées, c'est qu'on n'a pas de pause déjà pendant la journée, quasiment. On doit être vraiment à la disposition et notamment quelque chose qui m'a choquée, c'est la première fois que mon agent m'a dit bah là tu pars ce soir, tu vas shooter justement en Suisse, je me rappelle la première fois c'était ça, et je devais prendre le train et comme si j'avais pas de programme, comme si mon emploi du temps était à l'entière disposition de mes agences. Donc je dirais que c'est ça la plus grande difficulté et le côté un peu physique qu'on n'imagine pas non plus.
D'accord, donc derrière le glamour il y a quand même de l'incertitude, du stress et en plus des journées qui sont assez physiques.
Oui, totalement. Mais après, il y a aussi énormément de bons côtés. Ça me fait rencontrer plein de personnes parce qu'on travaille jamais avec les mêmes personnes. On rencontre des personnes différentes presque tous les jours. Et quand ça marche bien, c'est génial. Enfin, moi, j'ai eu la chance et j'ai la chance encore de pouvoir travailler avec des clients que j'aime bien, de pas faire toute la partie. Il y a aussi les mannequins défilés, les mannequins photos. Moi, je suis mannequin plus photo. Et les mannequins défilés, il y a vraiment un comment, une exigence sur le corps, sur la, justement le, les mensurations qui est assez, assez violente aussi.
Bien
sur
sûr.
Le coup, j'ai moins vécu.
Non, d'accord, mais vous pensez que c'est une vie qui peut rendre heureuse ?
C'est comme tout métier. Il faut être à l'aise avec des mauvais côtés. Il y a toujours des mauvais côtés dans chaque métier. Et pour le mannequinat, je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait de avec cette incertitude et ce quotidien justement qui n'est jamais tranquille et jamais le même en fait. Moi, j'adore ça. Maintenant, je suis accro à ça. Donc ça va. C'est fatigant, mais en même temps, ça me plaît. Donc voilà.
On va évoquer ce sujet en profondeur tout à l'heure, mais c'est un secteur qui semble peu soucieux des problèmes environnementaux. Qu'est-ce qui justifie ça, à votre avis ?
Après, je pense que dans tous les secteurs, on a une prise de conscience à avoir. On est quand même loin, de manière générale, dans la société. Il y a peu de personnes qui ont compris les enjeux, les ordres de grandeur, ce qui aurait vraiment de l'impact, c'est ce qu'on devrait vraiment changer aujourd'hui. On est un peu, j'allais dire bipolaire, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est comme s'il y avait deux. Voilà, c'est ça. C'est comme si on avait deux réalités. À la fois, on nous dit que le monde est en train de s'effondrer et que la planète ne va plus être habitable, enfin, en tout cas une grande partie de la planète pour l'humain, etc. Et à la fois, le monde continue de tourner comme si de rien n'était, et même de plus en plus vite. Enfin, il y a de plus en plus, si on parle justement du mannequinat, de la mode, etc., il y a de plus en plus de grosses marques comme des Chines, des marques d'ultra fast fashion ou Amazon, etc. Enfin, cette facilité à l'achat et cette façon de pousser à la surconsommation en permanence. Enfin, moi, ce qui me choque notamment, quand je marche dans la rue à Paris, je réalise le nombre de magasins de vêtements qu'il y a. Il y en a partout. Et je me dis, mais en fait, c'est de la folie. On a déjà de quoi habiller 6 générations là, de vêtements qui sont déjà créés. Et on continue d'ouvrir des magasins. Et il n'y a que ça, en fait. On croise que ça. Donc, en fait, la mode a une place hyper importante dans nos vies. Et notamment dans la pollution et dans les émissions carbone, etc. Donc probablement c'est ça qui fait que l'industrie des shootings, du mannequinat, etc. n'est pas vraiment consciente, parce qu'en fait on est dans un tourbillon.
Et puis parce que vous vous occupez de la beauté, et donc quand on s'occupe de la beauté, c'est difficile d'aller parler de problèmes en fait.
Ah, ça aussi, oui absolument, il y a ce sujet là. Et il y a encore une fois cette idée que comme c'est des métiers qui font rêver, je pense que les personnes qui ont la chance de faire ces métiers, ou en tout cas qui ont l'impression de réaliser leurs rêves en faisant ces métiers, ont envie de rentrer dans le moule. Et en fait, le moule, c'est pas de se poser des questions, c'est pas de mettre des barrières. En fait, si on a la chance de travailler, on va pas aller dire non, mais moi j'aimerais bien... typiquement, moi quand je veux prendre le train plutôt que l'avion, quand j'ai commencé à le faire, il y a au moins 6-7 ans, mais mon agent il m'a dit, mais tu te prends pour une star ou quoi, enfin, c'est quoi, c'est... J'avais un super shooting qui était confirmé en Allemagne, je vois qu'il y a un train qui est possible, mais il fallait que je termine 2 heures plus tôt. Et j'étais en train de changer complètement, j'étais en train de réaliser l'impact de mes voyages en avion, et je lui ai dit, je veux bien faire ce job, mais il faut que je rentre en train, c'est comme ça. Et il m'a vraiment, il a très mal réagi la première fois.
Vous étiez la seule à cette époque ?
Oui, enfin, non, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est marginal.
Et aujourd'hui, vous avez vu une évolution depuis, ou les consciences évoluent un petit peu ou pas du tout ?
Les consciences évoluent. Après, dans le mannequinat, je suis pas sûre. En tout cas, j'ai pas rencontré de profil. J'en ai pas rencontré très 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 peu qui faisaient attention à ça, et notamment à leur façon de se déplacer. Et ce qui est pour moi un des plus gros impacts, c'est le choix des personnes avec qui on travaille. Et notre façon de voyager, parce que c'est un métier où on voyage énormément. Donc malheureusement, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'exemples.
Alors vous-même, à partir de quel moment vous avez commencé à vous sensibiliser à cet amour ?
Je pense que c'est venu très, très progressivement. J'ai pas d'idée exacte de date. Je sais juste que déjà mon mémoire était sur l'écologie. C'était en 2016. Donc ça, c'est mon premier point.
Donc c'est quand même quelque chose que vous avez porté déjà en tant qu'adolescente.
Ouais. Je pense que j'ai toujours été sensible. Et en fait, plus je me suis renseignée, plus je me renseignais, plus je lisais, plus j'écoutais de podcasts et plus je lisais de livres, et plus je me disais, mais en fait, c'est une catastrophe. il faut tout remettre en question et en fait on vit comme si de rien n'était. On continue de vivre comme si de rien n'était. Et donc ça a commencé à germer en moi. Après il y a eu effectivement un burn-out qui je pense en fait était le symptôme de la dissonance dans laquelle j'étais entre mon métier de mannequin où je prenais l'avion 5 fois par semaine et tout ce que j'étais en train de découvrir. Et je me disais mais en fait personne ne bouge, on fait rien, on change rien, pourquoi? Et je le réalisais pas à ce moment-là, mais c'est vrai que ça, ce burn-out a...
Je pense que beaucoup d'auditeurs ressentent aussi cette espèce de différence qu'il y a entre ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'ils doivent faire. Mm-hmm. Et que notre responsabilité à tous, c'est d'essayer de nous aligner le plus possible pour qu'il y ait le moins de différence possible. C'est très difficile.
Exactement. Et en fait, il y a une chose aussi que j'ai réalisée à ce moment-là, c'est que j'ai eu l'impression qu'il fallait que je laisse tout tomber. Je me suis dit, en fait, mon métier, c'est n'importe quoi. Mes études, bien que j'ai adoré mes études, parce que je fais du droit et l'histoire de l'art, c'est génial, mais j'ai plus envie de travailler là-dedans, parce que là, j'ai envie de travailler dans l'environnement. Et je me disais, mais c'est pas, faut que j'abandonne tout, faut que je m'isole, que j'aille dans une ferme et que je vive en autarcie, et voilà. Et en fait, je crois qu'on peut avoir de l'impact là où on est. Et c'est pas forcément, ça va pas forcément être le métier qui nous paraît ou le choix de vie qui nous paraît le plus éco-responsable. Mais c'est pas grave, en fait, on doit tous agir avec nos cartes et nos connaissances. Et c'est là qu'on va avoir de l'impact, en fait. Enfin, par exemple, j'essaie de prendre tout ce que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprendrais pas finalement les codes de tout ce que je connais, du mannequinat, du luxe, de cette société du désir, pour essayer de les tourner vers un mode de vie éco-responsable? Et je crois, peut-être que je changerais le chemin juste au début du chemin, mais je crois avoir de l'impact en faisant ça.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller faire la révolution, il ne s'agit pas de quitter son job pour aller faire autre chose, pour sauver la planète, il s'agit de rester là où on est et d'essayer de faire les choses mieux.
Et peut-être dans un deuxième temps, se révolter. mais en tout cas, oui, en fait, il y a plein d'étapes, il y a plein de formes d'engagement et on peut avoir un impact, enfin, on sous-estime l'impact qu'on peut avoir et dans son domaine, dans le métier dans lequel on travaille, et même auprès de sa famille, ses amis, en changeant de mode de vie, en fait. On inspire tout le temps les autres. On influence tout le temps les autres, en fait.
Alors, puisqu'on parle de révolte, j'ai lu que vous êtes révolté le jour où vous vous êtes rendu compte que vous ne connaissiez absolument rien aux produits de beauté qui étaient dans votre salle de bain.
Oui, tout à fait. Ça a été un des aspects que j'ai changé en premier. Je me suis rendu compte que je lisais les packagings des produits et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je mets sur ma peau? Pourquoi il y avait tous ces Aromazone et tout, enfin, toutes ces marques qui arrivaient et c'est super avec des recettes à faire soi-même. Et en fait, j'avais envie de reprendre le contrôle, reprendre la main sur ce que je mettais sur ma peau.
Concrètement, vous êtes rendu compte de quoi en voyant ce qu'il y avait dans les produits? C'était pas bon?
Alors, il y a, en tout cas à l'époque, il y avait très peu d'alternatives, il y avait très peu de marques qui étaient bio, naturelles, qui étaient vraiment strictes sur la composition. Aujourd'hui, le secteur de la beauté a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, on trouve des produits qui sont très clean, aussi bien au niveau du packaging que de la compo. Donc c'est mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, je ne fais plus mes produits moi-même. Et je travaille avec plusieurs marques de cosmétiques d'ailleurs. Donc on n'est pas obligé non plus, encore une fois, d'être radical et de juste utiliser de l'huile d'olive et de l'huile de carotte. Mais j'ai trouvé ça, enfin j'ai adoré faire ça pour juste reprendre le contrôle et me dire.
Donc vous pouvez expliquer le process à nos auditeurs parce que c'est quand même intéressant. Comment on fait ces produits de beauté?
Alors moi j'ai acheté un super livre, j'ai pas la référence là, mais un livre de recettes maison pour faire ces produits. Et après je commandais des huiles, des macérats, des huiles essentielles bio autant que possible. Je sais pas, du beurre de karité et tout ça, et puis je faisais des petites recettes, quoi, comme une recette de cuisine, vraiment.
D'accord, donc nos auditeurs pourraient faire exactement la même chose.
Ah, absolument.
Bon, l'autre problème dans la salle de bain, c'est évidemment le plastique, on en parlait un peu avant l'émission. Il faut trouver des solutions pour réduire le plastique. Le plastique des salles de bain, c'est une des plus grosses sources de plastique. Avec la cuisine, ce sont les deux plus grosses sources domestiques.
Absolument.
Donc là aussi, il y a des efforts à faire absolument énormes.
Ah, mais là... Le solide, c'est un vrai sujet. On n'a pas encore réussi à tout rendre solide. Mais par exemple, c'est pareil, il y a quelques années, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, il y avait très très peu de choix. aujourd'hui, on a des shampoings solides pour tous les types de cheveux. On a, bon, évidemment, du savon. Solide, ça on a toujours connu, mais juste on avait oublié. Et après ça arrive petit à petit. Et là, il y a de plus en plus de produits qui font un vrai effort sur le packaging, déodorant, après shampoing, etc.
Pour les hommes, c'est plus facile, mousse à raser, etc. On trouve à peu près tout, mais pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait que les grandes marques s'y mettent pour que les consommateurs acceptent de vraiment, les consommateurs classiques, c'est-à-dire que le mass market, acceptent de s'y mettre aussi.
Alors, les grandes marques s'y mettent. Il y en a quelques-unes, en tout cas, je peux citer des noms. Les Garnier, Yves Rocher, etc. L'Occitane, ils ont tous fait, par exemple, leur shampoing solide il y a quelques années. Mais je me demande à quel point ce sont des produits qu'ils valorisent. Et aussi, c'est vrai qu'en tant que femme, c'est un vrai point à soulever, il y a une pression sur notre façon de nous présenter au monde, on a un minimum acceptable pour sortir et faire un rendez-vous.
Non, mais on cherche le meilleur produit possible pour soi-même, j'imagine, quand on est une femme. Et du coup, on s'imagine que c'est pas forcément le produit qui est bon pour la planète.
Oui.
Est-ce qu'il peut être bon pour les deux ?
Exactement.
Et donc, par défaut, on finit probablement par aller prendre le produit qui nous semble être le meilleur en oubliant la planète.
Bah oui, et surtout parce qu'il y a énormément de produits toxiques pour nous, pour notre santé, qui sont une avancée et que pour l'instant, on ne sait pas remplacer par le naturel. Par exemple, si on parle de cosmétiques, le vernis semi-permanent, tout le monde fait ça maintenant. C'est un toxique, mais c'est épouvantable. Mais on a vraiment pas d'alternative aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué pour être dans les codes et pour se sentir bien et pour être à la hauteur des demandes sur le physique, la présentation, et être éco-responsable sur tout. Alors, c'est possible sur la majorité des choses, et il s'agit de revoir ses priorités aussi, mais...
Mais là, c'est peut-être aux marques aussi de faire ce travail-là, d'arriver à enchanter les produits qui ont un impact positif pour la planète, pour qu'au final, les marques qui ne le soient pas, ou les produits qui ne le soient pas, deviennent un peu ringards. Tout est une question de perception dans ce monde-là.
Absolument. Absolument. Il y a un rôle des marques, il y a un rôle pour les consommateurs et pour les influenceurs aussi.
Moi, comment on fait pour convaincre les marques qu'il faut aller dans cette direction-là ?
Eh bien, ça commence par notre manière de consommer. Si on se dirige vers des marques qui font au moins un effort sur la traçabilité de leurs produits, on sait un petit peu où ils sont fabriqués, par qui, comment, la compo, etc. Déjà, c'est un choix qui a de l'impact. Parce que les marques qui ne font pas ça auront forcément moins de demandes. Et donc, ça, c'est la première chose à faire. Comment on fait ensuite ? Eh ben, on peut contacter les marques aujourd'hui directement. On peut leur écrire.
En tant que consommateur, ouais, mais bon. Faudrait vraiment qu'il y ait peut-être une énorme pétition, qu'il y ait un mouvement.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. En tant que consommateur, c'est vraiment les choix qu'on fait qui ont un impact.
Vous pensez que le législateur a aussi son mot à dire ? Vous pensez qu'il peut interdire des produits ?
Il y a un concept qui s'appelle le triangle de l'inaction. Et qui permet de bien voir qu'on a tous un impact et un rôle à jouer, c'est qu'on se dit toujours, le consommateur va se dire, moi j'ai aucun impact, c'est les marques qui doivent changer, parce que moi, petit consommateur, je peux pas changer les choses. Et les marques vont dire, mais nous, on peut pas changer les choses, parce que nous, on a besoin de gagner de l'argent. Donc en fait, c'est le gouvernement, c'est le législateur qui peut changer quelque chose. Et le gouvernement va dire, nous, on a besoin de l'argent, etc. Et en fait, c'est une espèce de cercle vicieux où tout le monde se passe un peu la responsabilité. On a tous une responsabilité là-dedans. Évidemment, je pense que le plus important, ce serait au niveau de la législation. Sans ça, on ne pourra pas avancer. On ne peut pas se contrôler nous-mêmes. Tout ça, ça relève de... C'est des addictions même, cette surconsommation... on le voit bien avec les jeunes aujourd'hui et avec les Shein et les marques ultra fast fashion. Ce sont les premiers concernés. Ils ont peur de ce qui se passe. C'est prouvé. Plus de 60% des jeunes sont éco-anxieux. Et pourtant, c'est les plus gros consommateurs de produits.
À nouveau, on est dans la schizophrénie.
Voilà. Donc en fait, on a besoin de légiférer sur tous ces sujets-là. Ça commence à arriver un tout petit peu.
En France, on a la loi AGEC, qui est une très bonne loi, mais qui ne s'est pas encore attaqué au plastique des salles de bain, par exemple. Il s'est attaqué au plastique à usage unique, mais on est encore loin d'un monde où ils auraient banni le plastique dans tous les produits de beauté.
Ah oui, ça, mon Dieu, oui, ça, on est très très loin. Non, on est au tout début et sur plein de sujets. On est plutôt précurseur en France là depuis quelques mois. Encore une fois, sur la fast fashion, il y a un projet de loi qui est hyper intéressant. Qui, bon, là, du coup, tout est remis en question avec ce qui se passe en ce moment en France, mais il y a un projet de loi sur le fait d'interdire la promotion de marques d'ultra fast fashion, notamment par les influenceurs, et notamment d'en faire la pub dans la rue, etc. Donc voilà, ça, ce sont des projets de loi qui sont intéressants. Et on en est au début, tout début.
On en est au tout début, ouais. Mmh. Mais donc, vous pensez que c'est vraiment le consommateur, que chacun individuellement, en changeant nos habitudes, on va pouvoir essayer d'inciter la marque à changer, puisqu'elle va voir qu'il y a un mouvement.
Oui.
Et puis derrière, pourquoi pas à ce moment-là, le législateur.
Alors,
on peut espérer.
C'est pas le consommateur qui a le plus d'impact dans tout ça. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense que les grandes entreprises et le législateur ont le plus d'impact. Mais on ne doit pas non plus négliger notre impact à nous, à chacun, en fait. Donc voilà, c'est tout ça, c'est...
Ça va passer aussi par l'innovation, des nouvelles marques qui vont arriver, qui vont disrupter des marques qui ne veulent pas changer, qui vont plaire aux consommateurs.
Oui, mais de toute façon, il faudra que les grands groupes, les L'Oréal, etc., se remettent en question et fassent évoluer vraiment leurs pratiques, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont l'argent, qui ont la puissance, c'est eux qui sont dans les supermarchés. Et donc, c'est eux qui peuvent toucher.
On voit bien dans l'histoire du capitalisme que, de toute façon, l'innovation n'arrive jamais dans les grands groupes. Et donc, on peut espérer qu'il y ait des nouvelles structures qui arrivent, qui montrent des nouveaux marchés, qui finissent par être rachetés par ces grandes sociétés. Et qu'à ce moment-là, ces grandes sociétés se rendent compte du potentiel de ce marché.
C'est ça. Ouais, tout à fait.
Ah, bon. Alors, j'aimerais qu'on revienne à l'année 2016 où vous avez fait un burn-out. Qu'est-ce qui a justifié, à votre avis, ce burn-out ?
J'ai mis du temps à comprendre l'état dans lequel j'étais, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est cette dissonance entre ce que je découvrais sur le monde et sur les valeurs que je développais et mon métier, qui est toujours d'ailleurs de promouvoir des vêtements, donc de donner envie aux gens d'acheter ces vêtements. De voyager énormément et enfin, c'est de la consommation de voyage ultra rapide quoi. On n'a même pas le temps de visiter, enfin, il n'en est même pas question en fait. C'est une vie qui va à 1000 à l'heure et je pense que je n'ai plus supporté un moment tout ça et j'avais besoin de me réaligner.
Vous avez senti une forme de corrélation entre votre état et l'état de la planète à ce moment-là ou pas?
Ça, j'ai l'impression de le sentir toujours.
Toujours.
Ouais, j'essaie de... C'est par phase. Je crois pas pouvoir m'en défaire totalement.
Et combien de temps vous avez mis à vous sortir de cette situation? Parce que c'est pas évident. Et déjà, la plupart des gens mettent du temps à s'en rendre compte, qu'ils sont en burn-out.
Alors moi, je suis devenue un légume. Hein, donc clairement, voilà. Enfin, comment? Ça a été en plusieurs étapes. Les premières semaines, premiers mois, je me suis dit « Ah ok, je suis vraiment très fatiguée. » Mais ça va aller, je vais prendre une semaine, puis ça ira mieux. Et en fait, j'ai tiré sur la corde, et au bout d'un moment, mon corps a vraiment dit stop totalement. Et ça a été, disons, 3 mois où vraiment je ne pouvais plus sortir de chez moi.
Vous avez arrêté de travailler ?
Ah oui, mais complètement. Vraiment, je ne pouvais plus avoir de conversation, je ne pouvais plus aller d'une pièce à l'autre, enfin, c'était très compliqué. Ça a été plusieurs mois comme ça, et puis après, je dirais 6 mois avant de reprendre une vie normale, et même au-delà de normale, une vie qui me ressemblait plus.
Et donc, le chemin pour vous en remettre, ça a été de vous occuper plus de vous et plus de la planète. Si je résume, c'est ça?
Alors, bon, pour m'en remettre, il a fallu beaucoup de patience et d'amour de mes proches.
Bien sûr.
Beaucoup de repos et je pense plus d'écoute. Et prendre conscience que c'est vraiment très bateau ce que je dis, mais c'est très vrai, que aucun contrat, aucun argent ne valait ma santé. Et en fait, je me sentais tellement chanceuse d'avoir tous ces contrats, d'avoir toutes ces opportunités, tout ce travail, que je voulais rien refuser en fait. Je me disais, mais en fait, je gagne ma vie, je fais un métier dont tout le monde rêve, enfin, toi, tout le monde, mais beaucoup de personnes. de mon âge en tout cas. Et
vous avez été happé par la vitesse avec laquelle ouais. tout ça, ça a été, ça s'est accéléré.
Ouais. Et en fait, je me disais que j'avais pas le droit d'être fatiguée parce que même si on parle même juste dans mon métier de mannequin, enfin déjà, je travaille beaucoup par rapport aux autres et je me disais mais en fait c'est génial, je peux pas me plaindre. Donc je voulais pas me plaindre, pas me plaindre, pas me plaindre. Et voilà. Et au bout d'un moment, en fait. Ben non, il faut se recentrer, faut pas oublier l'essentiel, mais parfois il faut des leçons un peu dures pour.
Bien sûr, mais ça vous a permis aujourd'hui d'avoir des combats qui sont des combats plus intéressants, j'imagine, ouais. et de vous faire une vie plus intéressante que la vie que vous pouviez avoir avant.
Sans aucun doute. Ouais.
Alors ces combats, comment vous les avez choisis ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi tel combat plutôt qu'un autre?
C'est difficile parce que évidemment c'est une bonne question. Évidemment je suis touchée par parce que je pense qu'on est forcément très sensible quand on s'engage pour ce genre de cause, enfin pour une cause de manière générale. Les combats que j'ai choisis, c'est plutôt l'écologie et le féminisme, et dans l'écologie ça a commencé par le plastique. Je dirais que ça a été un peu des opportunités et des endroits où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment la parole qui a été prise, ou en tout cas dans le secteur dans lequel je travaillais. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc j'ai peut-être choisi ça par rapport à ce que je pouvais partager avec les autres, ce qui pourrait avoir de l'impact auprès des personnes que je côtoyais. Et de l'impact dans le sens où dans le mannequinat, ça va être la mode, le voyage, etc. Donc ça a été ça mes sujets, et le plastique. Et j'ai été contactée par une asso qui s'appelle No More Plastic au tout début, parce que je faisais des ramassages de déchets. Et en fait, je collabore toujours avec eux. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai été sensibilisée au sujet du plastique déjà il y a bien longtemps. Et voilà, et après, on se spécialise dans un sujet plutôt qu'un autre. Et c'est là que je mets mon énergie.
Alors, vous avez fait le choix, vous l'avez dit, d'essayer de ne plus prendre l'avion. Il y a des métiers où c'est plus ou moins facile de ne pas prendre l'avion. Dans votre cas, c'est très compliqué.
Oui, c'est très compliqué.
C'est une contrainte énorme parce que géographiquement, ça vous limite énormément.
Oui. Alors après, j'ai toujours, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai toujours dit que je n'arrêtais pas totalement l'avion. Si vraiment... en fait, c'est à chaque fois une balance. Je me dis à quel point j'ai besoin de ce travail, à quel point il est intéressant pour moi et voilà, à quel point ce que je vais faire vaut le coup, en gros. Donc prendre l'avion, par exemple, pour aller à l'autre bout du monde. Bon, là, ça fait bien 5 ans que j'ai pas fait de long courrier. Il m'est arrivé quand même de prendre des petits vols parfois quand j'avais pas le choix en termes de timing, etc. Effectivement, c'est une grosse contrainte.
Ça vous avez raté des contrats à cause de ça ?
Oui. Ouais,
vous avez un gros shooting à New York pour le week-end. Vous n'allez pas y aller en bateau, donc.
Oui, ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore énormément de fois de me dire oh, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vraiment je dis non ? Bah oui, forcément. J'ai surtout au début. Quand j'ai commencé à prendre position, j'avais pas d'audience sur les réseaux sociaux. J'avais pas. Enfin, j'étais personne dans le mannequinat, à part les top modèles. On peut pas. Enfin, on n'a pas encore une façon de mot à dire. Donc, oui, j'ai perdu pas mal de contrats. Ça n'a pas été compris par mes agents. Mais je crois maintenant que j'ai un peu l'effet inverse. Et je crois qu'aujourd'hui, ça m'apporte des contrats et que c'est respecté même par. Pas encore par tout le monde, mais c'est respecté par certains clients.
Ça commence à être compris.
Ça commence.
Vous avez parlé dans une interview de slow travel.
Oui.
C'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui.
Vous voulez aujourd'hui qu'on voyage plus lentement?
En fait, quand j'ai commencé à prendre cette décision de moins prendre l'avion, je le voyais vraiment comme une contrainte. Hein. J'adore voyager. C'était pas vraiment pas par plaisir au départ. C'était vraiment, vraiment me faire violence et me dire ok, allez, on va voir ce que ça donne, mais il faut que j'essaye, il faut que je transforme ma vie. Et en fait, petit à petit, le fait de prendre le train, notamment, c'est surtout le train que j'ai pris, pour me déplacer, et le fait de prendre le temps et de me rendre compte qu'en fait, ces moments de train, c'était des moments où je pouvais travailler, où je pouvais me poser, où je pouvais lire, où j'avais pas forcément de réseau, mais en fait, c'était génial parce que ça me permettait d'être assise avec moi-même, de regarder le paysage. Et en fait, je n'y vois presque que du positif aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire pour moi. C'est un moment de recentrage. Enfin, c'est un moment où je peux me reconcentrer. Ça évite de faire un burn-out.
Non, bien sûr. vous pensez donc que la vitesse nous empêche de regarder le monde comme on devrait le regarder?
Bien sûr. Mais bien sûr. Et je pense qu'on est tous happés par nos téléphones, par les applications, par cette idée justement de oh, il faut que je parte à l'autre bout du monde, il faut que j'aille voir le soleil, il faut que j'aille à l'île Maurice là pour me reposer. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est complètement fou qu'on se repose d'une vie qu'on s'impose. Et qu'en fait, si juste on prenait un petit peu, alors je suis mal placée pour le dire parce que j'ai quand même une vie toujours à 3000 à l'heure, hein. Mais le fait d'avoir ces moments de voyage un peu lent, slow travel, moi ça m'aide quand même à me recentrer, à pas trop me perdre dans tout ça, et c'est très important.
Je vais laisser nos auditeurs méditer sur cette notion de slow travel alors. Donc pour changer les choses, vous avez choisi d'être créatrice de contenu, influenceuse, pour utiliser un mot à la mode. Comment est-ce que vous définiriez ce métier d'influenceuse aujourd'hui?
Le métier d'influenceur, en effet, on en parle énormément. On en entend parler partout. Il y a énormément de préjugés et d'a priori là-dessus. La plupart des jeunes aujourd'hui veulent être influenceurs. Enfin, moi, en tout cas, je vois mes neveux. Ils me disent que ça. Ah, je veux être influenceur. Ah bon, bah, et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, les influenceurs, ils ont existé de tout temps. On influence...
À partir du moment où on ouvre la bouche ou on fait un geste, on influence les gens autour de nous. Donc, on est tous
exactement
des influenceurs. Mais pourquoi vouloir aller faire ça sur un média? Quelle est la raison qui vous a poussé à aller faire ça?
Et en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que les réseaux sociaux, je les déteste autant qu'aujourd'hui, je les adore, parce que pour moi, ça a été une opportunité extraordinaire de, encore une fois, reprendre le contrôle et reprendre la main sur ce que je pouvais présenter aux autres. Dans le métier de mannequin, je choisissais même pas les photos que je présentais de moi. J'étais jamais en contact direct avec les clients, etc. Là, ça m'a permis d'avoir une vitrine. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir une vitrine sur les réseaux sociaux. Et ça permet de se montrer au monde gratuitement. Enfin, gratuitement, il faut avoir un smartphone. Mais aujourd'hui, en France, en tout cas, je crois que c'est 97% des gens qui en ont. Donc, c'est. Voilà. Mais à part ça, les réseaux sociaux sont à la portée de tous. Et ça nous permet de nous exprimer. Ça permet de se vendre et ça permet de prendre la parole sur des sujets qui me tiennent à cœur.
Et ça vous a permis de vous exprimer, de toucher des gens que vous n'auriez pas pu toucher sinon?
Absolument. Ben, ça m'a permis d'avoir une voix, en fait. Moi, j'avais pas de voix.
Une voix qui est aujourd'hui écoutée, puisque vous avez 200 000 followers, c'est ça?
Ouais.
C'est magnifique, quand même.
Oui, en fait, très rapidement, ça a plu. Parce que ce qui m'a motivée aussi à travailler sur les réseaux sociaux, c'est qu'à l'époque, il y avait des influenceurs qui parlent de tout et n'importe quoi, qui font du placement de produits, qui sont très cool et très suivis, et donc des créateurs de contenu, et des personnes dans le climat, des personnes qui sont très engagées, mais c'était tout de suite un extrême, qui sont très engagées, qui font un super travail et que je suis et que j'adore, hein. Mais qui vont pas du tout, pour le coup, faire de placement de produits, qui vont pas parler de marque et qui vont pas conseiller sur ces sujets-là. Et donc, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu un pont, qu'il manquait un peu des personnes, de profils au milieu, qui inspiraient un mode de vie éco-responsable, mais juste qui rendaient ce mode de vie cool aussi, quoi, comme
donc,
le slow travel.
Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une influenceuse éthique?
J'espère, en tout cas, j'essaie de l'être au maximum.
c'est une belle vocation de vouloir l'être déjà. Donc,
ben oui.
Il y a quelques semaines sur France 2, il y avait un reportage accablant sur les dérives des influenceurs. Est-ce que vous pensez que les médias sociaux restent malgré ça un moyen efficace pour informer les gens?
On ne peut pas faire autrement qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Les influenceurs ont pris une place énorme dans nos vies et surtout dans la vie des jeunes. pour plus de 2/3 des jeunes, les réseaux sociaux sont leur première source d'information. Donc à partir de là, enfin, je pense qu'il faut quand même faire ce constat de, on peut pas négliger les réseaux sociaux, on peut pas les, du jour au lendemain les interdire, ils sont dans nos vies. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui...
Ça reste un outil qui est neutre, c'est ce qu'on en fait qui va lui donner justement sa valeur.
Alors, oui, neutre, j'espère, malheureusement...
C'est une technologie, non, mais c'est une technologie à la base.
Oui, tout à fait.
C'est ça, et cette technologie, on peut l'utiliser en essayant d'avoir une externalité positive ou négative.
Exactement.
Et, voilà. Et donc vous focalisez pour essayer d'avoir le maximum d'externalité positive.
Oui. En fait, je crois que si on se dit les gros méchants sont sur les réseaux sociaux et ce sont ces influenceurs-là qui ont des millions d'abonnés et qui font la promotion de la vie à Dubaï et de voyages en jet, etc. Et nous, on est des personnes bien et on s'extrait, parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, on s'extrait du monde, etc. Oui, bien sûr, dans un monde idéal, il n'y a pas de réseaux sociaux. Mais je crois qu'il faut quand même des personnes pour contrebalancer, pour partager de l'information. Il y a énormément de sites de... de comptes de vulgarisation écologique qui sont géniaux, moi qui m'ont tellement aidée pour, et qui m'aident encore aujourd'hui pour apprendre plein de choses sur ces espaces, sur l'environnement, des comptes comme Bon Pote, The Good Goods pour la mode. Enfin, moi ça m'a énormément formée en fait. Ou Camille Etienne, qui est une activiste aussi, qui a mené beaucoup de combats et de pétitions sur les réseaux sociaux. Voilà, là, ça montre le bon côté des réseaux sociaux et je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de faire avec et il faut essayer d'aller dans cette mouvance.
Alors, vous parliez des jeunes tout à l'heure et vous avez aussi dit qu'ils étaient évidemment éco-anxieux. Est-ce que vous le ressentez au travers des réactions qu'il peut y avoir, des interactions que vous pouvez avoir avec vos followers ?
Oui, je le ressens. Je le ressens de plein de façons différentes et c'est peut-être... étonnant l'idée qui me vient là, enfin l'exemple, mais je le ressens notamment par les critiques, les personnes qui vont la moindre incohérence qu'ils vont noter sur mon profil, ils vont la noter et ils vont se dire ça ce que tu fais là c'est pas écolo. Par exemple, je vais prendre un bain et je vais mettre une vidéo d'une baignoire et on va me dire c'est super, c'est hyper écolo les bains. Et en fait, pour moi, ça montre la peur qu'il y a partout, ce côté où on se regarde les uns les autres, où on ne sait pas trop comment réagir. Et en fait, on est tellement angoissé qu'on a un comportement ça devient n'importe
surtout,
quoi.
Surtout, il y a quelque chose d'incohérent à attendre d'un modèle qui soit parfait.
Ouais.
Vous restez un être humain et vous avez des incohérences comme tous les êtres humains.
Et oui.
Donc,
donc
ça, j'imagine, ça vous touche aussi un petit peu. C'est pas facile.
Oui. Ça, c'est pas évident, mais en fait, j'essaie d'en prendre le contre-pied et je me dis, c'est ça qui empêche aujourd'hui, justement, les mannequins, les influenceurs, qui sont des personnes qui, par définition, ont beaucoup d'influence et ça les empêche de s'engager. Donc, en fait, je veux pas baisser les bras et me dire que c'est trop dur d'avoir toutes ces critiques.
Quoi. C'est ce que vous disiez, j'ai noté une citation qui disait « Parler d'écologie aujourd'hui, c'est s'exposer à la critique ».
Oui.
C'est ça. Et donc, cette critique, vous la vivez régulièrement et...
Bien sûr. Tout le temps. J'ai une responsable, mais de toute façon, j'estime que quand justement on a de l'influence, on a une audience, on a une responsabilité envers cette audience. Et donc, il y a forcément des côtés qui sont moins agréables, il y a forcément une responsabilité et des choix à justifier, ou en tout cas, j'estime que je dois justifier mes choix. Et je trouve ça normal d'en discuter avec ma communauté.
On essaie dans cette émission de parler du challenge de l'écologie sans effrayer et plutôt de manière positive. Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose ?
Oui, c'est essentiel.
Vous pensez ? C'est bien.
Oui, absolument. Alors, mais c'est pas suffisant pour moi. Il faut aussi, des personnes un peu. Enfin, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui aillent manifester devant l'Assemblée Générale de Total. Il y a aussi des choses très graves.
Des activistes.
Des activistes.
Il faut aussi des gens qui sont sur le terrain.
Oui, absolument.
Et puis des gens qui sont aussi dans les couloirs pour aller contrer les lobbies, pour qu'on puisse essayer d'avoir un monde plus propre.
Exactement. Et en fait, tout ça est complémentaire. Encore une fois, on a tous notre rôle à jouer. On a tous une place.
Est-ce que vous pensez que la mentalité des jeunes peut changer ? Est-ce que vous pensez qu'on peut l'influencer ?
Je suis certaine qu'on peut l'influencer parce qu'on a tous besoin de modèles, que justement les réseaux sociaux jouent un rôle énorme dans leur façon de consommer, de s'informer, etc. aujourd'hui. Et on vient de parler de cette idée d'être positif pour parler d'écologie. Je crois qu'aujourd'hui, on vit un tel bouleversement qui est tellement difficile à accepter, surtout dans un monde qui bouge pas assez vite, qu'on a cruellement besoin de modèles d'espoir et de positif, et de montrer qu'en fait, non, ça n'est pas qu'une punition de changer son mode de vie. Et au contraire, on peut être plus heureux dans ce choix-là. Donc voilà, je crois qu'on peut influencer et qu'on peut aider les jeunes aujourd'hui là-dedans. Parce que non seulement ils sont éco-anxieux, mais il y a encore une autre étude que j'ai vue récemment que je trouve absolument terrible. Plus de la moitié des jeunes, et là c'est à travers le monde cette étude, c'est 10 000 jeunes, pensent qu'on est foutu. Donc à cause du changement climatique. Donc à partir de là...
Ça crée un nihilisme qui va détruire toutes les sociétés.
Voilà. En fait, pourquoi dans ces cas-là faire attention à sa manière de consommer? Pourquoi dans ces cas-là, on brûle tout là?
Donc on a une obligation à les mobiliser, à les éduquer et à leur montrer que l'avenir peut être enchanté.
Exactement.
C'est pour ça que vous avez écrit votre livre?
Oui, ouais. Oui, notamment. Ouais. Ça a commencé par une association. En fait, j'ai monté une association il y a 2 ans qui s'appelle Aware Collective pour sensibiliser les influenceurs à l'écologie. Parce que pour moi, les influenceurs et à travers les réseaux sociaux, on donne envie, on peut rendre les choses cool, sexy, attirantes, tout ça. Et en fait, on a réellement besoin de rendre l'écologie désirable et un mode de vie éco-responsable désirable. Donc ça a commencé par cette association. Et quand j'ai créé cet asso, donc en fait j'organise des voyages où j'emmène des influenceurs pendant 3 jours. Et à chaque fois on a un thème précis qu'on approfondit pendant 3 jours avec des intervenants. Et je me suis rendu compte que la plupart des influenceurs, ils sont sensibles au sujet de l'écologie. Ils sont finalement assez renseignés, mais ils se sentent jamais légitimes pour en parler malgré tout, parce qu'il faut du temps pour approfondir un sujet et être capable d'en parler, effectivement, parce qu'ils se sentent seuls à le faire, parce que très peu d'influenceurs, malheureusement, aujourd'hui, en parlent et prennent ce risque.
Et puis peut-être parce qu'il y a moins de business model à parler de la planète plutôt qu'à parler d'une grande marque.
C'est sûr aussi que ça veut dire faire des sacrifices financiers, au moins
en arrêtant de prendre l'avion.
Voilà. Au moins dans un premier temps, ça veut dire oui, c'est forcément un sacrifice. Et en fait, les influenceurs, ils aimeraient parler d'écologie, ils ont juste peur d'être critiqués. Ils ont peur derrière d'avoir une remarque à chaque fois qu'ils vont justement vouloir prendre l'avion pour leur travail. Et ils ont peur d'être scrutés. Parce qu'en tout cas, ceux avec qui je parle, ils voient comme moi je suis scrutée. Et ça leur fait peur. Donc en fait, ce livre, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand moi j'ai démarré sur les réseaux sociaux il y a 3 ans. C'est tous les conseils que je peux donner modestement, mais sur ce métier d'influenceur et sur l'écologie.
D'accord, donc c'est un guide de bonne pratique.
Oui, tout à fait.
Trouvé à destination à la fois des influenceurs, mais aussi du grand public.
Absolument.
D'accord.
En fait, dedans, vous pouvez trouver aussi une définition plus précise de ce métier d'influenceur, de comment est notre quotidien, comment on peut gagner sa vie en tant qu'influenceur, plein de conseils sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai appris moi pour pouvoir faire grandir un compte. Mais bien sûr, de manière la plus éthique et éco-responsable possible.
Alors, parmi les conseils que vous donnez dans votre livre, vous expliquez que l'action individuelle est incontournable, on en a parlé tout à l'heure, mais par où commencer? Et donc, vous vous dites, il faut commencer par calculer son empreinte carbone.
Oui.
Alors, comment on calcule son empreinte carbone?
Alors ça, il y a des sites super que je n'ai pas en tête. Je pense que sur le site de Bon Pote, il y a un calculateur d'empreinte carbone.
On peut en trouver un peu partout. On tape, si vous tapez sur Google calculateur d'empreinte carbone, vous le trouverez. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait une fois que je pose la question pour nos auditeurs qui voudraient, en écoutant l'émission en même temps, essayer de calculer leur empreinte carbone, comment ça se passe concrètement?
Bah, ça prend quelques minutes et en fait on remplit des cases pour savoir si on a comment on se déplace tous les jours, si on prend la voiture, le vélo, si on part en vacances, si on est parti en train, en avion, etc. Enfin, on doit renseigner ses moyens de transport, on doit renseigner sa manière de s'alimenter. Parce que ça joue un rôle énorme dans notre empreinte carbone, notamment la consommation de viande, surtout de viande rouge. On doit renseigner aussi comment notre logement est chauffé, comment il est isolé, etc. Ça, je crois que ce sont les trois principaux points.
Mais alors, ce que ça permet aussi, c'est de réaliser quels sont les principaux points, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, quand on met dans un calculateur, quand on prend un avion pour aller à Marseille depuis Genève, et d'un seul coup, on se dit c'est un saut de puce sur une carte et qu'on se rend compte de l'impact, à ce moment-là, on se dit on va peut-être essayer de prendre le train.
Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais complètement, c'est ça. Il faut réaliser que pour ce type de trajet, donc un Paris-Marseille, en train versus avion, je pense que c'est 80 fois plus de CO2 en moyenne. C'est pas négligeable.
Donc vous avez changé vos habitudes de consommation non seulement dans les trajets, vous dites que vous ne prenez plus l'avion, vous essayez de prendre le train, vous essayez de limiter la voiture, vous faites du covoiturage?
Alors ça,
c'est compliqué dans votre métier de...
Oui. De... Non, ça j'avoue que le covoiturage, je ne le fais pas. Et pour des... Enfin, je le fais dès que c'est possible avec des personnes que je connais.
Mais quand on a une personnalité un peu publique, c'est compliqué d'aller faire du covoiturage.
Ouais.
Vous donnez un conseil, vous dites évitez de poster votre aile d'avion ou votre hublot.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et pourquoi?
Oh là là, mais on a tous fait ça. Enfin, moi, j'ai fait ça. Je suis tombée sur des photos de moi il y a 6 ans, je crois, où je me mets en photo dans l'avion avec le hublot. Je me suis dit, je peux pas croire que j'ai fait ça. Parce que prendre l'avion, c'est une chose. Parfois, on est obligé de le prendre pour aller voir sa famille. Si on part en vacances une fois tous les je sais pas combien et que c'est mesuré, raisonné, enfin voilà. Ou pour son travail. Bon bah voilà, parfois on est obligé de prendre l'avion. Mais en faire la promotion et rendre ce moyen de transport cool.
Ouais, c'est glamour aujourd'hui de prendre l'avion.
Voilà.
Mais ça va être dur de le déglamouriser.
Je sais pas si ça va être dur, mais en tout cas il faut qu'on s'y mette quoi. Il faut mettre en photo et en vidéo son trajet en train avec un paysage magnifique. Il faut se filmer en train de faire du vélo dans la campagne.
C'est vrai quand on fait un Genève Paris ou un Genève Lausanne, les paysages sont exceptionnels.
En Suisse, vous avez les plus beaux trains possibles.
Ah bah dans les montagnes, on se régale. Hein.
Ils sont extraordinaires. Ouais. J'ai fait un Interrail en Suisse. Enfin, typiquement, j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. J'ai fait ce voyage il y a un an maintenant. Un Interrail avec vraiment, j'ai pris 4 trains suisses différents, j'ai essayé de trouver les plus beaux, de faire des vidéos là-dessus. On m'en parle encore, c'est juste exceptionnel en fait. Ça fait rêver et ça fait pas de mal.
C'est clair. Alors vous donnez aussi donc des conseils sur l'alimentation. Vous insistez sur les bienfaits du régime végétarien. C'est pour ça que peut-être que vous voulez pas qu'on poste de viande. Vous incitez aussi donc à arrêter tous les selfies avec une côte de bœuf.
Oui.
Il y en a beaucoup des selfies avec des côtes de bœuf.
C'est un peu une blague, mais oui, il y a pas mal de contenu, notamment chez les chefs un peu suivis et tout, où on va mettre des photos de son barbecue avec la côte de bœuf en train de griller. C'est encore quelque chose qui peut paraître cool pour plein de personnes. Moi, j'adore la viande. Hein. J'adore tous les types de viande. C'est d'ailleurs terrible, encore une fois, parce que c'est une privation. Aujourd'hui, j'en mange un petit peu, mais vraiment très occasionnellement. Mais juste, encore une fois, la mettre en valeur, ça voudrait dire c'est cool de manger de la viande. Non, c'est pas très cool, en fait.
Donc aujourd'hui, il faut arriver à mettre en valeur des produits bio.
Oui.
Des légumes, des fruits,
produits de saison,
des produits de saison, des produits locaux.
Et je pense qu'il y a un vrai besoin de montrer qu'on peut faire des assiettes végétariennes qui sont délicieuses, qui sont incroyables, qui sont gourmandes, qui font rêver.
Est-ce qu'on peut dire que, parce que c'est ce que vous essayez de nous dire, j'ai l'impression que vous essayez de mettre l'éco-responsabilité à la mode.
ça peut gêner de voir les choses comme ça parce que c'est pas une mode.
Non, moi je pense que c'est une nécessité.
Mais voilà.
Mais c'est ce qu'on vient de dire, tout le propos de cette émission, oui. c'était de dire qu'aujourd'hui on a un souci sur la perception et qu'il faut changer cette perception et que c'est ce que vous essayez de faire.
Absolument.
Donc,
je veux rendre cool le fait d'être éco-responsable.
On part de loin. Non, mais c'est vrai, on part de loin. C'est-à-dire que dans les années 70, les politiques qui parlaient d'écologie, ils vivaient dans le Larzac avec des moutons.
Oui.
Et
oui.
On se moquait d'eux.
Oui.
Donc, même si tous les scientifiques alertent depuis 50 ans, pour nous, les gens qui s'intéressaient avant à l'écologie étaient des gens ringards. Donc, il y a un énorme travail à faire sur cette perception.
Absolument.
Et vous vous sentez seul ? Ou vous commencez à trouver des gens qui viennent vous épauler dans cette quête?
Non, il y a de plus en plus de personnes qui ont compris ça et qui font des choses extraordinaires et dans plein de domaines, notamment jardinage, permaculture, potager et tout ça. Il y a des profils tellement cool, on apprend des choses trop chouettes sur les réseaux sociaux. Après, dans le domaine dans lequel je suis précisément, je me sens encore un petit peu seule. On va dire dans la mode, il y a de plus en plus de profils, mais c'est voilà, il en faudrait encore plus.
Et alors, est-ce que vous avez un objectif dans cette espèce de quête? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un point, vous disiez, si j'arrive là, je serai satisfait.
Je suis pas sûre que cet objectif existe, enfin qu'il puisse être. Quantifiable, concret, ce qui m'anime et les moments où je me dis que je suis à ma place, c'est en tout cas quand je reçois des messages de personnes qui vont me dire en fait merci parce que là grâce à toi j'ai booké un interrail cet été et je vais faire le tour de Suisse ou là je suis allée en Norvège en train, pareil ça a inspiré beaucoup de personnes. Ça c'est vraiment, je sais que je peux pas sauver le monde, mais je me dis, bon, au moins j'ai réussi à donner envie et à rendre ce mode de vie éco-responsable plus cool, quoi. Et pas le voir comme une punition.
Vous restez optimiste pour l'avenir?
Oh, je suis bien obligée de l'être un petit peu, sinon je ne supporterai plus la vie sur Terre, mais je suis pas extrêmement optimiste sur le. J'ai peur qu'on arrive à un point de bascule à un moment, quoi. Enfin, on a déjà atteint des points de bascule d'ailleurs, mais j'ai un petit peu peur que les choses aillent pas assez vite là. Ouais.
Mais il n'y a que par l'action qu'on va pouvoir essayer de trouver
voilà,
des solutions.
En fait, c'est ça de toute façon. Il n'y a que ça à faire.
Donc. C'est cette action qui va vous permettre aussi de vous sentir mieux et qui va faire. Il y a une sorte d'alignement des planètes entre les belles choses.
Exactement.
Bon.
Oui.
On va se quitter sur ce joli mot. Alors, un grand merci Charlotte Lemay d'être venue nous parler des nécessaires changements dans le secteur de la mode et de la cosmétique, ainsi que de votre bel engagement.
Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu.
Merci Olivier Steinmetz d'avoir réalisé cette émission qui était la dernière de la saison. J'en profite donc pour souhaiter à nos auditeurs, de la part de toute l'équipe d'Entre nos mains, un excellent été. Et comme toujours, cette émission est disponible en podcast. Bonne soirée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.
Wonder if she's gonna stay.